Merci à tous ceux qui se joignent à nous pour cette deuxième heure d'émission. Tout à l'heure, d'entrée de jeu, je vous racontais, parce qu'on va parler des condos, des locations de condos sur Airbnb pour la prochaine demi-heure, je vous racontais que j'avais assisté à une rencontre d'un syndicat de copropriété d'un immeuble au centre-ville de Montréal. Beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes, des nouveaux propriétaires et aussi des retraités. Des gens qui sont pas forcément au courant des règles de copropriété. Et je me suis rendu compte que vraiment, effectivement, comme on se le dit depuis un petit moment, c'est devenu de plus en plus compliqué. Mais dans l'écriture, dans les règlements de copropriété, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que l'interdiction de louer sur Airbnb est assez évidente. C'est marqué noir sur blanc. Et en plus, ça dit très clairement que toute personne qui sera prise à louer son condo via Airbnb ou toute autre agence de location, mais on parlait surtout d'Airbnb, on va lui demander 500 $ de pénalité par nuitée. Donc, vous le louez deux nuits, c'est 1 000 $. Sur ce 500 $, il y aura la moitié, 250 $, qui vont être donnés à l'informateur. Et sincèrement, je trouvais ça épouvantable. Ma première réaction, ça a été de penser qu'on encourageait beaucoup la délation entre nouveaux voisins. Et je trouvais que c'était pas tout à fait éthique. Vous me direz ce que vous en pensez. Une chose est sûre, je voulais revenir là-dessus parce que les règles en ce qui concerne la copropriété, de plus en plus de gens s'achètent des condos. Vous avez vu, il y en a partout, que ce soit à Montréal ou à la grandeur du Québec. Les gens, on en parlait cette semaine, veulent aller dans plus petit ou ne peuvent que se payer des condos d'une certaine superficie. Donc, c'est important de savoir quelles sont les règles. Le spécialiste de la question, c'est Maître Yves Jolicoeur. Il est avocat spécialisé en droit de la copropriété. Il a écrit plusieurs livres là-dessus. Merci d'être là, Maître Jolicoeur.
Oui, bonjour.
Que vous en pensez, vous, d'entrée de jeu, là, cette pénalité qu'on impose, 500 $ par nuit, puis en plus, la moitié, on la donne à la personne qui a stoulé?
Ben, peut-être le deuxième volet est un peu étonnant. Ah, la première, non.
Avez-vous déjà vu ça, le 250 qu'on donne comme...
Non, ça c'est... on en apprend tous les jours. Mais ouais. Je vous dirais que la question de l'amende, c'est que c'est rendu tellement payant faire du Airbnb, si c'est en passant, que des fois même 500, c'est quand même... Ça reste payant de louer des fois dans certains immeubles, même si on paye 500 $ d'amende. Donc, ouais. Tout dépendant de la nature de l'appartement qui est en cause, ça peut être excessif, comme ça peut être suffisant.
Dans ce cas-ci, c'est des petits condos.
Bon, c'est ça. Mais il reste quand même, il faut toujours se rappeler que ces clauses pénales, le tribunal a toujours un pouvoir de révision. Le tribunal peut dire que la clause est excessive, peut la réduire. Donc, c'est pas automatique. Quelqu'un qui dit ben c'est excessif pourra contester devant le tribunal le montant de l'amende.
Ouais. Une chose est sûre, c'est que vous m'avez déjà dit, ça devient effectivement de plus en plus compliqué de louer sur Airbnb des condos parce qu'il y a beaucoup de plaintes. Vous avez des histoires d'horreur à en plus finir. Effectivement, est-ce qu'il y a plus de négatifs que de positifs? Puis j'ai hâte de voir ce que les auditeurs vont dire parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui louent sur Airbnb. Ben, ils n'ont pas tous des histoires d'horreur, parce que sinon, je pense que ça ne serait pas aussi populaire. Mais vous en avez quand même plusieurs.
On en a eu quelques-uns. J'ai eu un cas, à un moment donné, où ceux qui ont loué sont allés vider tous les meubles, les aménagements communs. Ils ont vidé. C'était des voleurs, finalement, qui louaient sur Airbnb. Il y a des gens qui louent pour quelques heures seulement. Ils vont faire le party. Donc, il y a des jeunes qui louent. La problématique, c'est peut-être pas le principe de louer sur du court terme, c'est le contrôle. Parce que souvent, il y a des gens qui vont louer sur le court terme sans se préoccuper de ce qui va se passer à l'égard des voisins. Tout le monde n'est pas comme ça. Donc, il y a des histoires d'Airbnb qui vont bien, mais quand ça va mal, et que souvent, les administrateurs sont des bénévoles, ils se ramassent à faire la police dans l'immeuble parce qu'il y a un party hors du commun, puis on ne sait pas qui est qui, parce qu'il y a une trentaine de jeunes qui sont rendus dans l'appartement. Mm. Bien, c'est pas agréable pour des administrateurs, voire même pour des voisins qui vivent cette invasion presque de domicile dans leur immeuble. Alors, il faut peut-être distinguer le bon touriste parisien qui vient avec sa femme et ses deux enfants qui vont louer 2-3 jours Airbnb versus la situation d'attentat presque sauvage de location. Donc, c'est ça qui est difficile pour les administrateurs de côté. Dans les côtés de nature résidentielle, c'est de contrôler. Je vous dirais, c'est pas que les gens sont en désaccord, c'est qu'il y a des débordements. Puis quand il y a des débordements, ben c'est très difficile de commencer à poursuivre les gens qui sont passés quelques heures dans le logement. Là.
Parce que si on prend juste Montréal, je disais qu'à Montréal, qui est une des destinations touristiques pas mal dynamiques, là, plus dynamiques en Amérique du Nord, on parlait de 13 000 hôtes Airbnb minimum. Ça, c'est ceux qui sont affichés. Ouais, ouais. Puis qui, bon, 13 000, c'est plus que... C'est Montréal, au Canada, là, c'est la ville Airbnb par excellence.
Absolument. Montréal est une destination touristique très prisée des gens de l'extérieur. Airbnb, évidemment, c'est une façon de voyager à petit prix. Et la copropriété, et c'est un terrain favorable, dans le fond, à cette location court terme, parce que les gens, dans le fond, ils ne veulent pas louer une maison, ils veulent avoir un appartement.
C'est ça.
Ils vont passer quelques jours. C'est un phénomène qui est en pleine croissance. D'ailleurs, Montréal est en train de couper court un peu à ce type de location court terme, comme le fait d'ailleurs Paris. Paris, aujourd'hui, on chasse les gens qui louent Airbnb dans les appartements pour une raison très simple, c'est que ça a limité le logement accessible pour les citoyens de la ville de Paris. Quand vous êtes rendu que dans une copropriété de 12 logements, on va avoir 6 Airbnb, bien, les gens qui demeurent à Paris ne peuvent pas loger parce que c'est plus lucratif que de louer à l'année. Donc, il y a un phénomène d'une problématique de nature sociale pour certaines villes comme celle de Paris. Montréal, on vit également cette réalité-là. Bien, on a plus de logements qu'à Paris. Toutes portions gardées, mais il reste quand même qu'il y a une problématique sociale, il y a une problématique également du bien vivre ensemble. Mm-hmm. Vous savez, quand vous êtes copropriétaire résidentiel, puis vous avez travaillé toute la journée, puis vous arrivez à un moment donné, puis c'est le party chez votre voisin, bien, quand c'est un voisin que vous connaissez, vous dites, bien, il a fêté, bon, il n'en voudra pas. Mais quand c'est le party à tous les jours, puis là, vous devez sortir et vous sortez de vos gonds, bien, c'est là que la copropriété à destination résidentielle devient un hôtel. Donc, c'est l'équilibre qui est difficile à établir là-dedans.
Mais comment, je pense que Airbnb est là pour rester, probablement. Bon, on essaye fort avec Uber au Québec, puis Uber existe encore. Airbnb, c'est pas à la veille de disparaître. Est-ce que vous pensez? Parce que c'est vrai que dans de plus en plus d'édifices en copropriété, c'est interdit. Il y a des municipalités où t'as pas le droit du tout. Il y a des immeubles où t'as pas le droit du tout. En même temps, c'est vrai, je comprends toutes les problématiques que vous dites, mais il y a beaucoup de gens qui se sont fait peut-être leurrer là-dessus, mais qui ont acheté un condo pour le louer Airbnb.
Absolument. Puis en plus, pour les promoteurs immobiliers au centre-ville de Montréal, si on coupe la possibilité de louer Airbnb, ça va couper les ailes à des promoteurs de construire certaines tours. Je pense qu'il faut s'entendre sur le pacte social d'une copropriété, c'est-à-dire la déclaration de copropriété. Moi, si j'étais dans une copropriété où on me dit que c'est à destination résidentielle, mais je m'attends pas d'avoir un hôtel dans ma copropriété. Par ailleurs, si j'étais dans une copropriété, il y en a une copropriété à Québec, là, c'est clairement établi dans la déclaration que la location court terme est permise. Ça fait partie de la destination de l'immeuble. Mais là, on se remet dans une meuble qui est propice. Donc, si j'achète là et je demeure là à demeure, il faut que je sois tolérant à l'égard des gens qui vont rentrer dans l'immeuble avec des valises parce que ça fait partie de la destination d'immeuble. Donc, la déclaration de copropriété, c'est l'outil de base. Qu'est-ce qu'elle me dit? Est-ce que je peux le faire ou je ne peux pas le faire?
Et ça, même les gens qui achètent sur plan, ils ont ça à disposition? Ils l'ont, cette déclaration-là, ou elle vient après?
Elle doit être donnée aux acheteurs quand on parle des complexes d'importance. Évidemment, on ne parle pas des petites copropriétés de 2 ou 3 logements. Le Code civil prévoit qu'on doit donner un résumé de la déclaration de côté. Et dans ce résumé-là, on va définir c'est quoi la destination de l'immeuble, est-ce que c'est permis ou pas. Le gros problème, Isabelle, c'est que les gens ne lisent pas leurs papiers avant d'acheter.
Non, c'est ça.
Alors, c'est ça. Donc, ils vont avoir des surprises après avoir acheté. Comment ça se fait qu'on peut en faire? Comment ça se fait que c'est permis? Et les débats s'installent.
Ou l'inverse.
Et l'inverse aussi. On a l'inverse. J'ai déjà eu des dossiers de côté de villégiature où c'était de l'hôtellerie et les gens étaient surpris de voir des gens arriver avec leurs valises alors que c'était clairement établi dans le Nord que c'était fait pour faire de l'hôtellerie.
Mais est-ce que c'était pas ça qu'il faut établir, c'est-à-dire que certaines copropriétés sont vouées à être louées Airbnb, puis d'autres pas du tout?
Mais c'est sûr que c'est ça qui est la solution. Là. Et je me répète, il y a des copropriétés, il y a des tours d'habitation au centre-ville de Montréal, la location court terme est permise. Mm-hmm. Donc, il n'y a pas de souci d'en faire.
Parce que vous me disiez, un des plus grands problèmes, Maître Jolicoeur, c'est l'assurance. C'est que c'est extrêmement coûteux quand on loue comme ça. Il y a des frais supplémentaires à assurer, que ce soit même les gens qui vont avoir un duplex, tu loues à des locataires, que ce soit même de la longue durée, là, les propriétaires qui louent leur logement à des locataires, tu payes pour ça.
Bien, tu payes pour ça, puis l'assureur aussi, parce que les assureurs apprécient s'ils prennent un risque dans un immeuble ou pas, en fonction de leurs critères. Chaque assureur a ses propres critères, donc il y a des assureurs qui n'en veulent pas, des immeubles en copropriété avec beaucoup de logements loués.
Ouais.
Il y en a d'autres qui vont les tolérer. Sauf que là, ça limite le bassin d'assureurs quand vous êtes administrateur d'une copropriété. Puis généralement, ça amène un accroissement des primes d'assurance parce qu'un assureur de copropriété va dire, bien, si c'est en location, mes primes vont être conséquentes. Alors moi, je suis copropriétaire résidentiel, j'y habite, puis là, j'ai un paquet de monde qui commence à louer les appartements, puis je vais payer de façon conséquente la prime. On a beaucoup de promoteurs immobiliers à Montréal qui ont eu de la difficulté à vendre leur logement, puis qui ont transformé des immeubles en copropriété, là, surtout à l'extérieur de Montréal, en bloc appartement. C'est une catastrophe. Ça déprécie aussi, dans certains cas, la valeur de revente des appartements. Parce que moi, j'ai acheté, je pensais que tous mes voisins occuperaient.
Et ils seraient propriétaires.
Ils seraient propriétaires.
Est-ce que tu n'as pas le même souci, disons, quand tu es propriétaire de ton logement, que ce soit dans un petit bloc, dans une maison, dans un condo, que si tu es juste locataire?
C'est sûr.
C'est malheureux, c'est mais sûr. C'est comme ça.
C'est évident que lorsqu'on est propriétaire, généralement, on va faire attention au fini des murs. On n'égratignera pas. Vous savez, quand quelqu'un est de passage pour une nuit, ben, que ça soit égratigné, ça sera peut-être pas ça forcément fout. Son souci.
Est-ce que, donc, Maître Jolicoeur, est-ce que vous direz que c'est une bonne idée ou non de louer son condo sur Airbnb dans le contexte actuel?
Ben, je pense
sans parler du contexte fiscal, parce que ça, c'est une autre chose.
C'est une autre affaire. Mais moi, je pense que si la déclaration de propriété le permet, pourquoi pas? T'sais, on n'est pas là à chasser Airbnb. Mais si j'ai une déclaration de propriété dont la destination est clairement résidentielle, il y a une incompatibilité, en quelque part, de transformer des appartements en hôtellerie.
Ouais.
Et là, évidemment, c'est une question de respect.
Mais c'est drôle monde, parce que dans l'immeuble en question, là, où j'étais la semaine dernière, il y avait clairement deux groupes. Là. Il y avait un groupe de gens... Des fois, c'est le conflit générationnel aussi. Je pense qu'il y a des plus jeunes aussi, étudiants, qui vont dire « Moi, ça m'aide à payer mon loyer. J'aurais jamais pu me payer un condo si je pouvais pas faire de temps en temps un peu de location à court terme, un peu d'Airbnb. » Puis, il y a des gens qui sont plus établis, qui ont choisi d'aller en condo pour leur retraite, qui veulent rien savoir, là, c'est clair. D'ailleurs, Sylvie me dit tout à l'heure, je disais, est-ce que c'est bien éthique de donner la moitié d'une pénalité qu'on charge, par exemple, aux gens qui loueraient à court terme, de donner 250 sur 500 $ de pénalité, de le donner à l'informateur, à la personne qui aura donc, entre guillemets, stoulé son voisin. Sylvie écrit, est-ce plus éthique de louer son condo sur Airbnb sans se soucier de ses voisins? Il ne mérite que de se faire dénoncer. Qu'est-ce que vous en pensez?
Écoutez, rappelons-nous ce que c'est une copropriété, c'est un cadre de vie. Là. Alors, à partir du moment où on tombe dans un système de délation, pour moi, c'est une question philosophique et non pas de nature juridique, on est ailleurs.
Ouais.
Et par ailleurs, Sylvie a la raison. Si j'ai des copropriétaires qui se fouillent perdument de la déclaration de copropriété, est-ce qu'ils ont place dans l'immeuble? La réponse est non. Je trouve ça malheureux qu'on soit rendu là. Je pense que ce n'est pas un bon système. Puis d'autant plus que, quant à moi, il est possible que le tribunal casse ce genre de clauses-là en disant que ce sont des clauses qui sont excessives.
Ouais.
Là.
On va voir ce qu'en pensent nos auditeurs. Est-ce que vous dénonceriez votre voisin s'il louait Airbnb et que ça ne fait pas votre affaire? Est-ce qu'au contraire, vous êtes quelqu'un qui estime qu'on devrait avoir le droit à partir du moment où on est copropriétaire d'un condo? On parle évidemment de la situation de la copropriété. De plus en plus, ça devient difficile de louer son condo sur des sites. Est-ce que vous trouvez qu'effectivement le jeu en vaut la chandelle? Vous pouvez nous joindre au 514-790-9850. Sans frais, vous faites partout au Québec le 1-866-790-9850. Puis comme on a le grand spécialiste de la copropriété au Québec, n'hésitez pas si vous avez un problème dans votre unité, dans votre condo, dans votre syndicat de copropriété, si vous avez besoin d'éclairage, de questions, Maître Jolicoeur va y répondre. À tout de suite, tout le monde. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de louer son condo sur Airbnb, mais sur la question aussi des pénalités que certains veulent charger à ceux qui louent, et qui contreviendrait donc à des règlements de copropriété. 500 $, je donnais un exemple parce que cet exemple-là, je l'ai vu de mes yeux vus la semaine dernière. 500 $ de pénalité par nuitée. Ali, je vous pose la question. 250 $ si c'est vous qui appelez pour dénoncer votre voisin. Est-ce que vous le feriez?
En fait, ma question, c'était pas tout à fait ça. C'est concernant un locataire qui loue une chambre dans un immeuble multi-logement. Est-ce qu'il a le droit? Moi, je suis locataire dans un multi-logement et je louerai une chambre, ça va m'apporter deux fois le loyer.
Mais si c'est chez vous, puis qu'il, lui, bon, c'est chez lui, il y a un logement, il loue une chambre dans son logement, est-ce qu'il a le droit de faire ça?
Mais là, je ne sais pas si on parle de copropriété, de logement locatif, mais...
Non, c'est multi-logement, pas
multi-logement.
Copropriété.
Ben, honnêtement, c'est le bail qui va définir les règles du jeu. Alors, généralement, c'est marqué dans les baux là, que...
Mais il a le droit d'avoir un coloc. Dans le fond, il y a un coloc. C'est comme un coloc, finalement, Ali.
Ça dépend ce qu'il fait.
Oui, mais un coloc qui change chaque semaine, et puis ça m'a, c'est, au lieu que ça soit juste résidentiel, ben, je l'utilise comme commercial et ça m'apporte deux fois le loyer.
Ah, ben là, commercial, dans le résidentiel, normalement, vous n'avez pas le droit. Là.
Donc, je vous dirais qu'il y a quelques soucis avec cette façon de faire, mais je ne peux pas vous prononcer, je n'ai pas le bail, et ainsi de suite. Mais écoutez, un bail résidentiel, il doit rester résidentiel, ça ne doit pas devenir un commerce. Alors, si ça se pourrait que votre propriétaire vous en fasse le reproche. Là, si
ça se peut que votre voisin vous dénonce.
Ah, ouais, c'est ça. Donc, vous êtes à risque peut-être.
Oui. Merci, Ali. Bonjour, Carlos.
Bonjour, ça va bien?
Ça va? On vous écoute?
Oui, ben moi, je suis copropriétaire d'une unité de condo.
Oui.
Et puis nous, on n'a pas le droit de louer l'appartement.
Oui.
Et puis moi, j'avais une question pour le monsieur, c'était avoir un couple qui gère la copropriété, est-ce que c'est bon? Ils sont dans la même unité, c'est le président puis la secrétaire. Dans le fond, c'est eux qui décident tout. Puis,
Vous avez, il y a combien de condos dans votre syndicat de copropriété?
On est 24.
OK. Comment ça se fait que vous avez élu le président puis la présidente dans la même famille? Le président
ben,
la...
moi, j'ai. Ben, quand on en a parlé en assemblée annuelle, moi, j'avais dit que j'étais pas trop d'accord avec ça. Et puis, on m'a dit que c'était de l'homophobie, parce que c'est un couple gay. Et puis, j'ai essayé de faire comprendre que c'est pas de l'homophobie, mais c'est juste. Il y a un conflit d'intérêt quand c'est un couple qui gère une copropriété, tant qu'à moi, là.
Ben là-dessus, je vous dirais, monsieur, que c'est vraiment votre déclaration de copropriété qui va vous dire si effectivement il y a incompatibilité d'avoir deux conjoints sur un conseil d'administration. Alors, il y a une section qui s'appelle le règlement d'immeuble qui établit les conditions d'habilité finalement pour siéger sur un conseil d'administration. Donc, si on parle en termes juridiques, ouvrez votre déclaration de copropriété, là, c'est la deuxième section de votre déclaration, c'est la grosse brique. Vous allez avoir des dispositions particulières sur comment on peut désigner un administrateur. Puis par ailleurs, ben là, c'est peut-être une question plus philosophique, si c'est pas interdit, est-ce que c'est une bonne chose ou non? Il faut savoir que dans bien des groupes, on a de la difficulté à trouver des administrateurs, hein, parce que ça se pousse, ça, les gens poussent pas pour aller siéger là-dessus, hein, les administrateurs, là. C'est parfois.
C'est beaucoup d'heures, puis c'est bénévole, hein.
C'est bénévole, puis c'est pas agréable quand vous êtes à votre voisin de pas faire quelque chose, c'est rarement votre ami par la suite. Alors, c'est pas toujours un travail qui est recherché, et on a de la peine, on a de la difficulté parfois à trouver des administrateurs. Alors, c'est peut-être tout ça qui doit être considéré.
Bon, ben merci beaucoup.
Merci, Carlos, de votre question. On a Asra qui nous appelle. Bonjour.
Oui, bonjour, ça va bien?
Oui, on vous écoute.
Oui, ma question est simple. Moi, j'ai constaté beaucoup de choses qui ne sont pas claires avec l'administrateur. On est juste quatre propriétaires.
Oui.
Et l'un des quatre, c'est un administrateur. Donc, est-ce qu'on a le droit de savoir combien on a de l'argent dans le compte précondo, les transactions qui se font, etc. Lui, il veut pas nous donner cette information-là. Une fois par année, il nous amène un document comme quoi, voilà, qu'est-ce qu'on a dans le précondo. Mais moi, je pose toujours la question, j'aimerais avoir les détails. C'est quoi les détails? Qu'est-ce qu'on sort? Qu'est-ce que ça rentre? J'ai même le doute que lui, il fait même pas ses paiements, ça veut dire. Et je sais pas comment on va procéder avec ça. Là, j'ai posé des questions plusieurs reprises. Même les autres propriétaires, ils ont posé la même question. On a envoyé des emails, mais jusqu'à date, là, on n'a aucune information.
Et vous êtes quatre, c'est une copropriété avec quatre condos ou quatre logements. Vous êtes quatre, c'est ça, dont l'un est l'administrateur principal et gère tout ça sans vous tenir au courant des dépenses. Maître Jolicoeur, là-dessus, quels sont les droits? Là?
Ben, les droits, dans un premier temps, c'est de le changer. Hein? Ouais. Si vous avez un administrateur qui n'est pas transparent dans son administration, surtout dans une petite copropriété de quatre. Là,
plus c'est petit, plus c'est complexe.
Si dans une copropriété de 200 unités, si tous les copropriétaires demandent d'avoir des copies de chèques, des copies de ci, il n'y a plus personne qui va vouloir siéger sur le conseil d'administration. Mais légalement parlant, l'administrateur doit rendre compte une fois par année de son administration. Donc, il y a des obligations qui sont très claires là-dessus. Par ailleurs, la loi ne donne pas un pouvoir inquisitif. Vous ne pouvez pas rentrer dans l'appartement de l'administrateur en disant « Vous allez montrer chaque pièce justificative. » Les tribunaux ont déjà tranché là-dessus. Mais c'est sûr que quand on est dans une copropriété de quatre, on devrait avoir cette transparence absolue entre copropriétaires.
Est-ce que c'est qu'une fois par année où on peut décider, comme syndicat de propriété, comme copropriétaire, de dire, bien, une fois par année, puis juste savoir à la fin de l'année, tu sais, t'es pas d'accord avec ton syndicat de copropriété, il fait des dépenses que tu veux pas, t'es payé pareil. Est-ce qu'on a le droit de dire, on va se rencontrer trois fois ou quatre fois, ou trimestre, une fois par trimestre, mettons?
Bien, les copropriétaires peuvent demander la convocation d'une assemblée. Une assemblée, il y en a au moins une fois par année, c'est celle qui est annuelle. Les copropriétaires ont le droit d'accéder au registre de la copropriété, donc ils peuvent aller voir, dans le fond, la documentation, mais ils peuvent pas demander chaque pièce justificative en disant, faites un chèque de temps.
Non, c'est
une pièce justificative?
Ouais.
Il y a déjà une décision
Mais il devrait savoir, par exemple, combien il y a dans le fonds de prévoyance. Il devrait le demander sans que ça soit une
fois par an. La loi est très claire. On doit produire des états financiers. Mais la réalité dans les petites copropriétés, c'est que c'est généralement dysfonctionnel. C'est géré tout croche. Est-ce que c'est le cas? Je ne le sais pas.
Et il y a souvent ce dont parlait l'auditeur, c'est-à-dire des fois, il y a des gens qui ont plus de temps que les autres, des fois, et qui prennent un peu le contrôle des décisions et c'est très difficile. Pour l'avoir vécu, là, moi, ça m'a vraiment dégoûté du condo.
Les petites copropriétés, lorsque les débats et les chicanes s'installent, c'est très, très pénible. C'est tellement proche. Les gens sont tellement proches. Mm. Mais je pense qu'il y a une question d'éducation là-dedans. Là.
Ouais. José est avec nous. Vous envisagez aller en condo, aller habiter en condo, José?
Ben oui, je planifie pour ma retraite, moi, de m'en aller en condo, puis de, tu sais, de relaxer. S'il faut que je m'achète de quoi, puis en plus, je paye des frais de copropriété, c'est pas évident. Puis là, il y aurait du monde qui arrive de n'importe où, puis qui viennent chez nous comme si rien n'était, parce que dans l'immeuble où ce que j'habite, là, il me semble que j'ai le droit de savoir qui est là.
Mm-hmm.
Tu sais, n'importe qui peut arriver, fait que moi, oui, pour dénoncer, c'est sûr à 100%.
Ouais.
Puis je suis pas pour ça, là, moi, la délation, là.
La délation, oui.
Moi, non, c'est ça, je suis pas pour ça. Quelqu'un peut faire un vol, n'importe quoi, ça me regarde pas, j'irai pas, tu sais... Mais par exemple, chez nous, j'ai le droit de savoir qui est là, puis si tu loues, tu t'achètes de quoi pour avoir la paix, pour te sentir chez vous, puis que tu te sens pas chez vous, ça pas de
mais il y a
temps,
chez là. Vous, il y a votre condo à vous, mais il y a aussi les aires communes, dans les aires communes. Tu sais, en même temps, ça vous regarde pas vraiment non plus ce qui se passe chez votre voisin à la rigueur, à moins que ça soit quelqu'un de violent puis que vous puissiez. Bon, mais.
Si, admettons que c'est du monde que tu sais même pas qu'ils sont là, c'est une autre affaire, mais si c'est du monde, comme vous dites, qui fait le party puis que tu sais pas c'est qui. Tu sais, mettons, là, ça peut être du monde avec des gros dossiers criminels,
mm-hmm.
puis tu te retrouves dans le portique avec lui.
Mm-hmm. Mais là, c'est parce que ça ouvre une boîte de Pandore. Là, on va faire la liste de tous ceux que le monde veut pas voir, là, Maître Jolicoeur. Comment on gère ça?
Dans un premier temps, il y a le concept de la copropriété. Le concept de la copropriété, c'est de partager avec l'ensemble des copropriétaires des espaces communs. Donc, quand vous rentrez dans le hall, vous rentrez pas dans votre hall d'entrée, vous rentrez dans le hall d'entrée qui appartient à l'ensemble des copropriétaires.
C'est
détenu. Donc, dans un premier temps, c'est un partage d'un bien. Mais on est également propriétaire absolu de son appartement. Puis là, c'est de trouver l'équilibre entre les deux. On peut pas non plus jouer à la police tout le temps parce que c'est pas le concept de la copropriété. Le concept de la copropriété, c'est le concept du partage. On partage un bien ensemble. Alors, ouais. Si j'ai mon voisin qui
c'est
me
bon
court...
de rappeler ça.
Pardon?
C'est bon de rappeler
ben
ça.
Ben oui, parce que c'est ça. La copropriété, c'est le partage. Alors, et trouver l'équilibre, c'est pas facile. Et c'est pour ça que les déclarations de copropriété comportent généralement beaucoup de règles, hein, des interdits, pour justement avoir dans la boîte à outils à un moment donné, quand il y a de l'excès. Moi, souvent, vous passez des règlements, c'est pas pour courir après toutes les personnes qui rentrent dans la base. C'est de dire, hey, écoute, là, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça.
C'est pour éviter le trouble.
C'est pour prévenir les gens qui excèdent. Ouais. Moi, j'ai toujours, pour mon dire, c'est pas parce que quelqu'un oublie ses souliers dans le corridor qu'on va le mettre à l'amende demain matin. On va peut-être lui expliquer que c'est peut-être pas une bonne idée de laisser ses souliers dans, parce que tout le monde va le faire. Il y a une approche plus, comment
ah,
dire,
moi, je peux vous dire,
plus tranquille. Civilisé à avoir
ah, on a des croûtes à manger parce que la semaine dernière, là, au meeting, je revenais pas. Là. Moi, j'étais là comme observatrice, j'accompagnais quelqu'un. Mais les gens posaient des questions comme est-ce qu'on peut savoir qui n'a pas payé ses frais de condo? Est-ce qu'on peut savoir le numéro d'unité des gens qui n'ont pas payé leurs frais de condo? Et là, la compagnie là, qui gérait le syndicat de copropriété, parce qu'il y a toujours un gestionnaire, disait ben, écoutez, y a très peu de gens qui n'ont pas payé. On ne donnera pas le nom des gens, là, mais oui, mais c'est pas juste. Les gens disaient, ben oui, nous, on les paye, puis ceux qui ne payent pas, ils ne devraient pas avoir les mêmes droits que tout le monde. J'étais abasourdie de voir ce que les gens proposaient. Puis, ben moi, je n'ai pas de garage. Est-ce qu'on paye pour ceux qui ont un garage? Pourquoi je devrais payer pour le nettoyage ou le chauffage? Fait que finalement, on est très loin du partage. On est plus dans l'individualisme, puis genre... c'est ton petit bout de tapis ouais. dans l'aire commune, là, tu veux pas ouais. que ton voisin le salisse.
Alors, la copropriété, elle ne peut que survivre que lorsque les gens auront la philosophie de la volonté de partager un bien tout en respectant le droit de ses voisins. T'sais, il faut être civilisé à travers la chose, ouais. mais également d'être ouvert
Vous
à partager. Vous
n'allez pas manquer de travail, Maître Jolicoeur. On a Eddie qui nous appelle. Bonjour, Eddie, rapidement. On termine.
Oui, bonjour, Madame Maréchal. Bonjour, Monsieur Maître Jolicoeur. Moi, j'ai une question très simple. On a un gestionnaire qui a pris le projet en main depuis la construction. Mais là, il a des procurations de la part de quelques propriétaires. Qu'est-ce qu'il fait? Il préside même les séances de copropriété, les assemblées générales. Donc, il passe tout ce qu'il veut. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Comme il n'y a pas de notion de conflit d'intérêt entre administré et avoir...
Mais si tous les gens ont donné des procurations, ça donne le droit, hein, Maître Jolicoeur.
Oui, ouais. Mais ici, là, je rejoins un peu votre... celui qui nous appelle Eddie, présentement, là. Eddie, c'est qu'il y a une question éthique là, ici, fondamentale.
Ouais.
Moi, je vois difficilement comment un employé du syndicat est en droit de revendiquer des procurations alors qu'il est un employé, il est en conflit d'intérêts au bouchon.
Complètement.
Alors évidemment, si les administrateurs tolèrent ces choses-là, on n'a peut-être pas les bons administrateurs. Mais là, actuellement, on commence à avoir des coïtés qu'on appelle de nature captive, où on a beaucoup de personnes âgées qui ne veulent pas aller aux assemblées, qui vont donner la procuration à n'importe qui va se promener. Puis c'est souvent, en fait, ça peut être un des membres du conseil d'administration. On s'occupe de tout. Et ça, on a des administrateurs qui contrôlent les assemblées parce qu'ils vont chercher toutes les procurations. Non pas dans une optique d'avoir des quorums, mais réellement de contrôler l'immeuble. Ça nous amène à des problématiques d'éthique. Puis ceci en passant, au Québec, on a demandé une réforme législative. Là. Pourquoi? Parce que ces situations-là, on ne peut pas les sanctionner de façon efficace. Moi, je pense qu'un gestionnaire ne devrait jamais avoir des procurations dans ses poches, mais c'est pas ça que la loi dit.
Merci beaucoup pour votre question, Eddie. Je pense que M. Jolicoeur, il y a beaucoup à dire sur tout ce qui concerne la copropriété. Je rappelle vos livres, vous avez écrit beaucoup de choses là-dessus, entre autres pour les gens qui souhaitent aller en condo. Allez-y.
Alors, je sors d'ailleurs le 18 septembre prochain à la Grande Bibliothèque nationale. On appelle la rentrée là, de la copropriété. Un dictionnaire sur la copropriété. Donc, ce sera le premier dictionnaire québécois sur la copropriété. Plus de 700 définitions.
Oui, on va apprendre beaucoup de choses là-dessus. Il faut qu'on fasse nos devoirs. On retient ça. Merci beaucoup, Maître Yves Jolicoeur. On s'arrête ici. Très courte pause. Tout de suite après, on reçoit des chasseurs de tornades. Restez là, tout le monde.